À côté de nous, il y aurait dû y avoir Diane ce soir, la maman de James Foley. Hier, elle m'a envoyé un message et elle m'a chargé de vous le transmettre, alors je vais vous le lire. Chers tous, notre fils Jim aurait été tellement touché, tellement honoré de voir ainsi son souvenir évoqué parmi vous tous. Merci à vous de soutenir la fondation James Foley, dont l'adresse s'est affichée tout à l'heure, vous l'avez vu, jamesfoleyfoundation.org. Son but est de protéger les journalistes et les photographes freelance qui travaillent dans les zones de conflit en les intégrant à l'ACOS, l'Alliance pour la culture de la sécurité. C'est un organisme international qui rassemble en fait les groupes des médias et les journalistes indépendants pour permettre de travailler dans des conditions de sécurité minimales au moins. Chers tous, reprend Diane, vous pouvez aussi participer à honorer la mémoire de John et de tous ceux trop nombreux qui sont morts pour la liberté de la presse en participant à une course virtuelle, la course de Jim pour la liberté. Elle aura lieu le 15 octobre. Alors, pour y participer, il faut vous rendre sur le site internet foleyrun.org. Donc, cette course, elle aura lieu le 15 octobre et ce sera pour nous tous un temps pour le souvenir. À tous, ici à Bayeux, merci, recevez toute notre gratitude, Diane et John Foley. Voilà, alors, Nicole, vous aviez vu ce film, peut-être comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire ce que vous dites dans le film, Fight Back with Words and Pictures, continuer à se battre avec des mots et des photos, comment on fait pour continuer à travailler?
You've seen the movie before, and so the question is, how do you keep fighting back? How do you keep working? After what happened in the new conditions?
I think that for so many people in this industry, we've lost a lot of friends along the way. Excuse me, it's difficult to watch the movie again. but as journalists, we have jobs, and I think this job is more important than ever because it's become so much more difficult to report from conflict zones and so much more necessary. So in that way, we fight back because we still need to do this and because it's more necessary than ever.
En tant que journaliste, elle a perdu, comme beaucoup de journalistes, beaucoup d'amis au cours de conflits. Et cela n'enlève en rien le fait que le travail de journalisme aujourd'hui est quelque chose de vraiment primordial et d'important. Et quoi qu'il advienne, voilà, il faut continuer.
Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui, Nicole? Vous travaillez toujours de la même façon?
Do you work the same way you used to, or has this changed something?
No, I definitely think that the way we work now is much different. You know, I think we have to be much more cautious and a lot more thoughtful than just going with the rebels to a front line, for example.
Les choses ont radicalement changé et il faut aujourd'hui faire beaucoup plus attention, bien réfléchir avant de s'engager, partir avec des rebelles comme il était possible de le faire auparavant pour aller sur les lignes de front. C'est beaucoup plus délicat.
But if anything, I think this has also taught us to look beyond just the cliche photographs that we often see of war. We have to dig deeper into real stories that affect real people and to bring these stories to the front.
Cela nous a aussi appris en fait à aller chercher vraiment plus loin et ne pas seulement aller prendre des photos sur les lignes de front comme ça a pu être fait auparavant, mais plutôt se concentrer sur les vraies histoires, celles qui touchent les civils et la population en général.
Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des premières questions. On ne vous voit pas très bien ici. Non?
Another way in which that we've changed our way we work is now actually, you know, many media depend on freelance journalists. And I think that over the last few years, it's come to the realization of publications that they need to give support to these freelance journalists, and one of them is about medical training and also preparing a freelance journalist to go to the front lines to do such reporting and being more responsible.
Une des choses qui a aussi changé, comme on l'a vu dans le film, c'est que les médias dépendent de plus en plus des journalistes freelance et pas des gens qui sont du staff. Et il est vraiment important de comprendre que les freelances ont un besoin en formation d'un point de vue médical et d'un point de vue sécurité.
Alors justement, Nicolas, ce sujet, vous êtes là aussi ce soir pour nous parler d'une initiative lancée avec RISC, une organisation qui se charge justement de venir en aide aux freelance.
Do you want to talk about RISC, the initiative that you're supporting?
Yes, RISC, it's in English, it stands for Reporters Instructed in Saving Colleagues, and it was started by a journalist himself, Sebastian Junger, after the deaths of Tim Hetherington and Chris Hondros in Libya in 2011.
RISC, c'est une organisation qui a été fondée après la mort de Tim Hetherington et de Chris Hondros, fondée par Youngers. Et l'idée, c'est des reporters qui instruisent à secourir leurs collègues.
Sebastian, realizing that most journalists go very unprepared into war zones without even knowing how to tie a wound if somebody is shot, for example, started this organization in order to train freelance journalists of how to treat wounds and, you know, to treat themselves or treat colleagues in case something happens, even during a protest or in a conflict situation.
Sebastian Youngers a lancé RISC pour en fait former les journalistes qui, pour la plupart, vont sur le terrain sans aucune formation, qui ne savent pas comment traiter des blessures parfois élémentaires, en particulier des hémorragies, qui ne savent pas comment poser un garrot de combat, qui ne savent pas comment utiliser des pansements compressifs, faire des choses basiques, mais qui en fait permettent réellement de sauver des vies.
The RISC organization has been doing independent fundraising and depended on media partner fundraising as well. But this is so crucial because many of these media organizations themselves are hiring the freelancers in war zones.
Et RISC a été fondé financièrement par les médias, par les grandes organisations, en particulier par CNN en fait, et qui ont compris à un moment donné qu'il était essentiel en fait de donner du support à ces freelancers. Malheureusement.
But sometimes the media partnerships are not able to fund RISC itself. So at the risk of sounding too pushy, you know, I would encourage you to look up RISC and see for yourself what it does to support the freelancers who bring you the news.
Et malheureusement, ces organisations, dont CNN, en fait, ont pour la plupart coupé ou radicalement diminué les fonds. Et donc Nicole, sans vouloir vous pousser, vous invite à supporter cette organisation du mieux que vous pouvez.
Alors Nicole, il y a probablement dans la salle ici des jeunes journalistes, des gens qui veulent faire comme vous, qui veulent aller voir aussi des lignes de front. Concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment on fait pour assurer sa sécurité? Vous en parliez au début de la Libye, vous y êtes allé en vous disant que c'était facile, pas cher, on pouvait passer avec les rebelles, la sécurité, vous ne vous en étiez pas vraiment préoccupé tant que ça à l'époque. Quels sont les conseils que vous donneriez aujourd'hui à un jeune journaliste?
How would you advise a young journalist in terms of what's the best way of working safely, not like people used to do in Libya and in the beginning in Syria, just go with the rebels and it's cheap way to work?
I mean, you really cannot work the way that journalists have worked in 20 years ago, for example, even, because the dangers are so much higher. Now, journalists are direct targets instead of, you know, collateral damage. And I think that the best way to prepare is really, firstly, you have to know the area you're going, the context, and also to be trying to take a medical training or hostile environment training.
On ne peut plus du tout travailler aujourd'hui comme on travaillait en tant que journaliste il y a 10 ou 20 ans. Avant d'aller quelque part, il faut vraiment comprendre et connaître la zone, très particulièrement, dans laquelle on va, connaître le contexte, connaître les gens, et avant de s'engager, avoir une formation médicale de base pour faire face aux blessures et au reste.
But also be aware that there are many publications asking young journalists, especially inexperienced journalists, to work in dangerous places for free. And this is really a shame because they should be responsible for the journalists who are working for them. And if we accept working for free, that just encourages them to do more, to be less responsible.
Il faut aussi comprendre que beaucoup de publications, en fait, encouragent des jeunes journalistes à travailler gratuitement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut supporter, parce que si on commence à établir ce type de standard, c'est quelque chose qui va perdurer. Une autre chose que je vais rajouter, c'est que pour travailler dans des zones de conflit, il faut vraiment de l'argent, et c'est l'argent qui permet de payer sa sécurité.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou une intervention sur ce sujet ? Parce que Nicole, donc vous parlez de training médical. Comment on fait également, alors vous parliez de se renseigner sur la zone, comment on fait aussi pour trouver un fixeur ? C'est une question qu'on entend régulièrement, on nous demande très souvent, mais comment vous faites ? Vous arrivez, qui, vous suivez qui, vous partez avec qui, comment vous faites ? Comment vous faites pour trouver la personne en qui vous avez confiance ?
Besides medical training, one of the key elements is to find good fixer. How do you go about it? How do you find good fixer of the right person?
Well, it definitely helps if you know the right journalists in the beginning. I know it's tough to go into the industry without any contacts, but you know, if you're living in Paris or some center of journalism, you can go and network very easily. And also, there are different groups on social media that can connect you to fixers and reliable and trustworthy people.
Pour trouver un bon fixeur, en fait, la clé, c'est vraiment de demander à ses collègues qui sont déjà établis et qui peuvent vous recommander quelqu'un. Alors ça peut être fait par le bouche à oreille, en particulier quand on habite Paris ou une grande ville. Il y a aussi des ressources sur les médias sociaux qui permettent d'avoir le même type d'informations et d'avoir des gens recommandés par d'autres.
Donc soyons pratiques à nouveau en termes de conseils. Un jeune journaliste donc, qui vous a entendu et qui veut partir sur un terrain va proposer son travail à un journal. Comment il fait pour le négocier ? Combien ça coûte d'assurer sa sécurité ?
A young journalist who's going to go into the field is basically going to pitch a story to a magazine, to a media organization. How does he go about it and how much is it going to cost to pay for his own safety?
I'm not going to lie, it's very tough nowadays to pitch your own stories and get accepted for an assignment, especially in an unstable place. But if you're successful, then you should expect the publication to be covering your insurance, you know, other costs of equipment. But usually as a freelancer, you should own all of your own equipment, like first aid kit and flak jacket and helmet and such. And how much should you negotiate? It really depends on the publication. But you know, you shouldn't be taking a normal day rate, for example, if you were photographing in a small town versus being in a dangerous place.
La première chose, c'est qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de réussir à vendre une histoire à une organisation. Et la deuxième, c'est quand on en arrive là, on devrait s'attendre à ce qu'en fait cette organisation, ce magazine, paye pour au minimum les coûts d'assurance et toutes les dépenses qui vont y être associées. Maintenant, il y a des choses qu'il faut acheter soi-même et que chacun devra avoir, comme par exemple le gilet pare-balles, kit médical.
I want to add though that I think that many young journalists and myself included think of the biggest story, the most sensational story they can follow, and often this can start your career, but you should also look at stories that you really care about and you think that should have coverage and also you think that are impactful instead of just jumping to the first most sensational thing that you can think of.
Et le conseil que donnerait Nicole, c'est de ne pas sauter sur ce qui est sensationnaliste, mais en fait vraiment de s'attacher à des projets qui ont de l'importance pour vous, auxquels vous êtes sensible.
On parlait des histoires qui vont faire que vous allez être repéré par un média. Didier François tout à l'heure le disait dans le film, aujourd'hui il n'y a plus de front lines, elles sont partout, elles sont ici, elles sont à Paris, elles sont aujourd'hui le journaliste par sa fonction est une front line. Qu'est-ce que vous répondez à la question aussi souvent récurrente, quelle est l'information qui mérite qu'on mette sa vie en danger éventuellement pour elle? Elle est où la ligne rouge?
There's no longer any front lines, as Didier was saying in the documentary. And one of the questions becomes, where do you draw the line in terms of what is the story that's worth telling, and where do you draw the line in terms of putting yourself in danger to tell that story?
I think there are a lot of different front lines. You know, there are pictures of combat, of direct war, but there are so many other pictures of the people around it who are affected, the people who are paid less attention. And I think these are the people that we should be looking at instead of the front line, because behind it, there are so many other stories.
L'important, ça serait de se concentrer sur les histoires qui touchent en fait les gens, les populations en général, et vraiment de ne pas être obsédé par les lignes de front, les combats et tout ce qui paraît évident, mais en fait n'a pas la plus grande importance.
Alors, parler de ce qui touche les gens, vous l'avez fait à Alep, comme James Foley, comme d'autres journalistes. Vous avez mis en avant la souffrance des habitants de cette ville. Vous le faites depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Alep connaît des bombardements sans précédent. Ça fait des années que les journalistes montrent ce qui se passe à Alep et rien ne change, au pire. Tout a empiré. Alep est aujourd'hui un enfer. Vous vous posez la question du sens de votre travail, de notre travail.
You've worked in Aleppo, showing the human suffering. And despite all that, I mean, Alep today is under like heavy bombardment, and it pretty much seems like nothing has changed. Do you ever question yourself about, you know, the meaning of your work?
I think it's very healthy to question the meaning of your work every day, because, yeah, in the end, there were many journalists who remained in Aleppo and tried to document the situation, but nothing changed. And this was part of the guilt that I think many people feel covering war. Nothing really immediately changes. But at the same time, you know, it's still, I argue, for the importance of independent viewers and observers being there as journalists, and also having a record for, you know, history and documentation. But being there is, in so many ways, so much more important than looking at it from afar, because you can actually relate this situation to the viewers outside.
Il n'en reste pas moins qu'il est en fait très sain de se poser des questions sur la nature de son travail. Tout le monde le fait, et ça n'a pas empêché que de nombreux journalistes restent en fait à Alep en dépit des bombardements et du reste.
Y a-t-il des questions? Alors c'est toujours un voilà, merci. Oui, on a. Est-ce qu'on peut faire passer un micro devant, s'il vous plaît? Merci.
Bonjour. Est-ce que je peux poser ma question en anglais, madame?
Je vous en prie.
So we saw in the movie that the American government was stuck at one point in negotiations. So have there been an improvement in how to free the hostages in conflicts?
On va juste traduire votre question quand même pour le reste.
On a vu dans le documentaire que le gouvernement américain était arrivé à un point où il était bloqué dans les négociations. Et en fait, je ne suis pas sûr d'avoir compris la dernière partie.
Est-ce qu'il y avait eu une amélioration depuis dans la façon de traiter les négociations avec les otages?
Recently, actually in the last year, there has been draft legislation that before, when James was a hostage, there was absolutely no negotiations, not even talking to terrorists, for example. So there was a complete block. But now there has been draft legislation to try to at least allow information to come in and to work with that information. I forget what the legislation was called, but there have been some improvements, and actually a large part because of Diane Foley pushing the American government to be better at negotiations.
En fait, au moment où ça s'est produit pour James, il n'y avait aucune négociation possible avec les terroristes, et il était littéralement illégal de communiquer avec eux. Aujourd'hui, il est possible de laisser passer l'information. Donc, on va jouer un petit peu sur les mots, mais il y a des échanges qui sont permis. Je vais rajouter autre chose, un titre personnel. Au moment où la famille Follet allait payer la rançon, il était tout à fait illégal en fait de donner de l'argent aux terroristes, de payer n'importe quelle rançon. Et il y a une loi qui est passée depuis, sous la pression en fait de la famille Follet, qui fait qu'aujourd'hui, il n'est plus illégal pour une famille américaine de payer une rançon pour la libération d'un des leurs.
Une autre question, peut-être ? Non ? Oui ?
Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on manque de journalistes qui osent aller sur le terrain?
Do you think that there's a lack of journalists who dare to go, you know, in the field? Not enough of them?
No, I think there's a lot of people who are very young and very keen to go to, you know, cover war, but the fact that is it's so dangerous now. You know, when I started, actually it was in Libya. It was the turning point of it becoming, a war in which it was very, very difficult to cover. Previously, you know, in Bosnia, for example, or other correspondents here must know that it was much easier to get access to these stories. But now it's almost impossible, especially in places, you know, with Islamic State, for example.
Non, en fait, Nicole pense qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes qui ont vraiment très envie d'aller sur le terrain. Maintenant, il est clair que les choses ont radicalement changé, en particulier depuis la Libye, et qu'il est beaucoup, beaucoup plus dangereux aujourd'hui d'aller sur les terrains, en particulier dès que ce sont des mouvements islamistes, avec, comme Daesh, par exemple. Avant, avec la Bosnie et d'autres conflits, ce n'était pas un gros problème. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué.
Est-ce que quelqu'un... Encore, oui. Alors, on a une question au fond, une autre devant.
On peut voir dans le reportage que il n'y a que les journalistes américains qui n'ont pas été libérés.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît ?
On peut voir dans le reportage qu'il n'y a que les journalistes américains qui n'ont pas été libérés. Donc, ça veut dire que les autres pays, eux, ont réussi à entreprendre des négociations, ou alors c'est juste parce qu'ils étaient américains qu'ils n'ont pas été libérés?
You can see in the documentary that it's only the American journalists who are not set free. So was it because they were American or?
Well, I think that there were many political reasons. Actually, James was killed shortly after the Americans started bombing the ISIS in Iraq. So that was one political reason, but also because it was a statement to, you know, the most powerful country in the world. It was also that they refused to negotiate or pay ransom or whatever it was. There were many, many different reasons.
Il y avait beaucoup de raisons derrière cela. Probablement une des premières raisons est politique, c'est-à-dire qu'en fait l'exécution de James a eu lieu juste après que le gouvernement américain ait commencé à bombarder Daesh en Irak. Et après, bien sûr, une raison qui a été évoquée avant, c'est que le gouvernement américain n'a pas du tout voulu négocier, ouvrir un canal de communication avec Daesh.
Alors, on avait une autre question devant. Oui.
Bonjour. D'après vous, comment la communauté internationale aurait dû réagir ou devrait réagir face à ce qui se passe à Alep, par exemple?
Tough question. How do you feel the international community should react to what's happening in Aleppo right now?
That's a good question. You know, since I haven't been into Aleppo for 3 years, and every day or every week you think that it cannot get worse, it becomes worse. I really think that it's up to the politicians and for us to be more vocal in pushing the politicians to make decisions, because they are the ones with the power to do so, to stop what's going on, to stop the carnage going on in Aleppo.
Cela fait 3 ans que Nicole n'est pas allée à Alep. Il n'en reste pas moins que, voilà, à chaque fois qu'on se dit que les choses ne peuvent pas empirer, elles empirent. Et il appartient à chacun, en fait, de se faire entendre auprès de nos politiciens pour qu'ils interviennent. C'est vraiment la seule chose qui peut réellement arrêter le carnage.
D'autres questions? Les micros continuent à circuler. Oui, là-haut. Des mains qui se lèvent un peu partout.
Oui, j'aimerais revenir sur la Libye. On sait combien le peuple libyen voulait se débarrasser de son dictateur, mais on sait aussi qu'il y a eu certaines manipulations, on le sait par la presse depuis. Comment ne pas être manipulé par les gouvernements, qu'ils soient français, américains ou syriens? Comment faire son travail quand on sait qu'on est instrumentalisé parfois, malgré tout son courage de témoigner?
How do you actually manage to work, taking the example of Libya, but also Syria and other places? All governments are basically going to manipulate and instrumentalize journalists. Despite of that, how do you manage to do your job?
Yeah, definitely in the case of Libya and Syria, we were only allowed to go on one side. And once you had been on the opposition side, it was very difficult to go to the government side, which is one of the shortfalls of our reporting there. However, you know, you have to take everything with a grain of salt, especially when you're reporting only from one side. You try to, you know, as a photographer, I have to write what I see in captions and et cetera, instead of just what people tell me.
Que ce soit en Libye ou en Syrie, dans ces conflits, les journalistes n'ont été autorisés à ne travailler que d'un côté. Parfois, certains ont tout de même réussi à passer d'un côté à l'autre, mais après, il était totalement impossible de revenir. Il n'en reste pas moins que où qu'on soit, on se doit de décrire au mieux ce qu'on voit. Mais il est réellement impossible de documenter plus d'un côté dans ces conflits.
Si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose à ce sujet. Être conscient d'une instrumentalisation, c'est déjà quelque chose. Et il faut l'avoir toujours à l'esprit. Et je pense que la première qualité d'un journaliste sur le terrain, parce que ça commence aussi par là, c'est de savoir penser contre soi-même. C'est quelque chose qu'on a sans arrêt à l'esprit, penser contre soi-même, être à la fois en empathie et se demander où peuvent nous entraîner l'immédiateté d'un moment, enfin les réactions qu'on peut avoir, et avoir conscience qu'on est toujours dans la petite histoire et la grande histoire en permanence. Si je puis me permettre. Pardon ? C'est pas non.
Oui, alors si vous permettez, moi j'ai deux questions. La première, ce sera... À peu près au milieu du film, on n'entend plus parler de Nicole. Elle ne réagit plus dans le film. Je voulais savoir comment ça s'est passé après l'assassinat de James Foley. Comment s'est passé son travail? Est-ce qu'elle a changé la façon de travailler quand elle partait sur les zones de conflit, si elle est repartie dans les zones de conflit? Puis je poserai la deuxième question après.
I would like to know, once Jim was murdered, how did it change the way you work? Did you go back to the field? How are you working today? Or, you know, did you wait? How did you actually manage?
After James was killed, I think I took a few months where I was doubting a lot of what I was doing, what my idea of, you know, frontline journalism was. But in the end, I sort of reconciled and said that this is not what he would have wanted for me to stop. And therefore, it's so necessary to continue. I do change the way that I work in the sense that I'm not as maybe gung-ho as I used to be, but I still feel that it's important to be there and to go to places. I just came back from Iraq, for example, and to document what's happening.
Après le meurtre de Jim, Nicole a passé plusieurs mois au cours desquels elle a vraiment douté de ce qu'elle allait faire et de la valeur du journalisme sur les lignes de front. Et puis après, elle s'est dit tout simplement que c'est vraiment pas ce que Jim aurait voulu, et elle a repris le travail. Donc depuis, elle a travaillé en Irak et dans d'autres endroits avec la même conviction.
Vous aviez une deuxième question?
Ouais, ma deuxième question, du coup, c'était, on n'a pas à la fin du film, on n'a pas entendu parler ou on n'a pas eu de nouvelles de John, qui était britannique et qui était avec lui, qui s'est fait arrêter avec lui, enfin Et on a vérifié là maintenant, et apparemment il serait encore, dans les geôles de Daesh. Est-ce que par hasard on a des nouvelles de lui et comment ça se passe?
Je ne sais pas si Nicole veut répondre. He's asking questions about John Kentley.
Yeah, yeah, yeah. Okay, it's fine.
He basically wants to know what we've heard since then.
Unfortunately, there's really very little contact actually with him, or none at all. The only news that we have from him is from the videos that sometimes ISIS releases of him doing, you know, the pieces to camera. And the last one was just maybe four weeks ago. He was near or in Mosul, but as far as I know, that, you know, the British government doesn't really have any contact or any kind of negotiations going on for John.
Je vais expliquer les choses un petit peu différemment. Depuis sa capture, en fait, Daesh a utilisé John Cantley comme un espèce de présentateur pour faire de la propagande pour Daesh. Donc, en gros, il n'a pas d'autre choix que d'obtempérer ou d'être tué. Les seules nouvelles qu'on a sont au travers des vidéos qui sont mises sur Internet par Daesh. La dernière, c'était il y a environ un mois et demi. Et on le voit, en fait, très, très amaigri à Mossoul, en train d'expliquer qu'ils sont régulièrement bombardés par les drones, par l'armée de l'air américaine, etc. Et sinon, il n'y a absolument aucune communication au travers du gouvernement britannique.
D'autres questions? Oui, il y a encore des mains qui se lèvent ici, puis on va bientôt vous laisser rentrer.
Comment la France a-t-elle pu convaincre Daesh de libérer les journalistes français qui étaient retenus en otage?
Est-ce qu'il y a un représentant de l'État français ici qui peut répondre à la question? Non, oui, tu as vu.
Non, je
prends le micro. Il y a pas mal de sujets qui ont été faits là-dessus, hein, sur tout ce qui a pu se faire en termes de négociations et de contacts. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les méthodes de négociation ne sont pas les mêmes selon les pays. C'est d'ailleurs le combat que mène Diane Follet, qui, elle, s'est sentie extrêmement seule, la famille Follet, dans tout ce processus. Il y a une question, oui. Oui, ici. Monsieur, oui,
je voulais savoir si les fameux Beatles ont pu être identifiés et d'autre part s'il existe des moyens de poursuite contre ce genre de personnes. Alors je sais que ça ne change pas grand chose, mais je pense qu'ils jouissent d'une impunité, et je voulais savoir si au niveau international il y avait des moyens de poursuite au niveau pénal.
You would like to know if the Beatles have been identified and if anything has been done legally, if possible, to actually...
One of them was very quickly identified, and I believe he was killed in an airstrike or drone strike several months ago. And he was apparently the one who was standing in one of the videos, but I forget his name, but yeah.
Un d'entre eux a été très rapidement identifié, et en fait, il a été tué dans un bombardement il y a environ 3 mois.
He was a British nationality.
Et c'était un Britannique.
Oui. Et puis on aura une question devant, après, une dernière question en fait.
Est-ce que vous pensez que ça en vaut la peine? Vous faites un métier magnifique, mais vous risquez tellement gros à chaque fois.
You're doing a wonderful job, but when you look at what's at stake and how dangerous things are, do you think it's worth it?
Ultimately, no, I don't think it's worth your life. And I think I learned that in a very difficult way after losing too many friends. But this, you know, there are some risks that I'm willing to take and many other risks that I'm not willing to take, that initially in the beginning I was willing to take all the risks. And now it's become, you know, you mature as a person, you mature as a journalist. But in the end, it's never worth your life because you still want to be here to tell the stories.
Donc non, en fait, ça, ça ne vaut vraiment pas votre vie. Au début, Nicole était prête à prendre tous les risques. Maintenant, avec de l'expérience et plus de maturité, on apprend à réfléchir et à décider ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine, jusqu'où on est prêt à aller pour mettre sa vie en jeu. Mais de manière ultime, non. Ça ne vaut pas sa vie quand on a perdu tant d'amis.
Alors, on avait une question ici et puis une dernière question devant.
Merci. Oui, bonsoir. Ça arrive de temps en temps qu'on entende des phrases telles que on n'aurait pas dû intervenir en Libye ou en Syrie parce que Kadhafi ou Assad, ce sont peut-être des dictateurs, mais au moins ils sont laïcs et ça vaut toujours mieux qu'un Daesh. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Sometimes you hear people saying that we should not have interfered or, you know, intervened in Libya or in Syria or in all of those places just because the people who were in place were dictators, but it was like government and it was in the end a lot better than, you know, people like Daesh being in charge.
You know, hindsight is 20/20, as we say, but when I went to Egypt and Libya, in the initial weeks in which they were liberated, let's say, from especially the dictatorships in Libya and also Syria, if you could feel the euphoria of people having this weight lifted from them of being able to speak freely for the first time in their lives, you know, that there's a little bit of, we have to understand a little bit of why it was, you know, perhaps important, but yes, should it have been better planned? Of course.
On ne peut pas avoir une vision parfaite des choses, mais il faut garder présent à l'esprit que quand des gens comme Nicole étaient présents en Égypte ou dans d'autres pays où il y a eu les printemps arabes, quand on est témoin en fait de l'euphorie générale des populations qui pour la première fois ont le droit de parler, d'utiliser leur liberté d'expression et de dire à peu près tout ce qu'ils ont envie de dire, on ne peut pas faire autre chose qu'être, on va dire, un petit peu excité et espérer que les choses vont bien se passer. Est-ce que rétrospectivement les choses auraient pu être mieux planifiées? Certainement.
Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce niveau-là, c'est que notamment au Proche-Orient, les dictatures créent les conditions de leur survie en empêchant toute possible alternative démocratique, et que ce sont les dictatures et les conditions d'une dictature qui créent des conditions sociales, politiques insupportables qui font le lit en fait de mouvements extrémistes. Donc le problème, si on doit partir de la poule et l'œuf, hein, si vous regardez les mouvements djihadistes, les mouvements terroristes qui se sont développés à travers la planète, ils sont tous nés d'une condition de dictature ou de guerre et pas l'inverse. Dernière question devant.
The yellow scarf.
Okay. Alors, voilà. Okay. Merci.
Because I'm Syrian, I'm working in journalism issue. I just want to ask, after all these years and after all this journalist who is dead in Syria, and you say that all the journalists went to Syria looking for the big story at the first. Now we have ISIS in Syria. How much the journalist will support to cover the citizens' stories, which is dead under the dictators about when they kills by bombs. And now we have ISIS. Now, if we are looking for the newspaper in the West, we are looking that Islamist rebels, ISIS did, Daesh did that. How much that you have this cover in your work to cover this story about these citizens, not to go with what the propaganda, with the media need in the future?
I think I understand your question to be that, you know, the media, especially the Western media, only tends to cover ISIS and what ISIS does and where ISIS is, for example, but very little coverage is devoted to the civilians and also what Bashar al-Assad is doing to the populace, because that becomes less, you know, important somehow.
La question serait pourquoi ou comment et pourquoi les médias occidentaux en fait ont tendance à beaucoup plus couvrir ce que fait Daesh, ISIS, que ce que fait en fait le gouvernement de Bachar.
My answer is that unfortunately, because of so many attacks in other countries, the Western media especially becomes focused only on the threat of ISIS instead of the threat that the Syrian government poses to its own people, because in a way it seems so far away.
Et la réponse serait qu'en fait, de par les attaques qui existent dans d'autres pays, on a tendance effectivement à se concentrer sur la menace que pose ISIS, que pose Daesh, plutôt que de se concentrer sur la menace que pose le gouvernement de Bachar sur les populations civiles.
Mais écoutez, merci à tous, en tout cas, d'avoir été là ce soir. Merci Nicole.
Merci beaucoup.
Merci Olivier de la traduction. Merci à tous. Je vous rappelle le nom de l'organisation dont Nicole vous a parlé tout à l'heure, qui s'appelle RISC. Je vous rappelle aussi donc la fondation Follet a besoin de soutien. Il y a des organisations qui travaillent, comme bien sûr RSF et d'autres, à la protection des journalistes. Ils ont besoin de fonds, ils ont besoin d'aide. Et on a besoin de journalistes indépendants pour pouvoir continuer à regarder le monde en face. Merci.
Merci beaucoup.